Avertissement, Hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration.
Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce point tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu l'as perdu, et sur la toundra, tu succomberas.
Salutations à vous, les nécromanes de l'ivresse nihiliste totale! Et bienvenue malencontreuse à Hurlement sur la toundra! Une émission liturgique consacrée au culte black metal qui est produite au plein cœur de la redoutable terre de ma fin, ici à Ikraluit, et qui est diffusée au-delà de la toundra jusqu'à vos propres landes sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, propagée davantage grâce à la balado-diffusion. Je suis Nafre, et mon rôle en tant que votre guide et maître des sauvages mystères est de vous offrir encore un autre rituel radiophonique et de vous monter ainsi un tempétueux blizzard philosophique dans lequel vous découvrirez avec moi à vos côtés dans notre cacophonie musicale les plus terribles révélations de notre noir culte. Ainsi, pour initier le rite, nous vous invoquons, oh, c'est la Pinois, chaotique divinité des vents sauvages, et oh, Sednanouliayouk, ombrageuse déesse des profondeurs océanes, que par vos terribles grâces, notre savoir et notre passion s'approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc, et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Pour cet autodestructeur rite de nos hurlements, une exploration des plus graves je vous ferai. Personnellement, je vous le partage, je suis une personne d'une certaine austérité, voire même d'une tempérance obligée qui va de soi avec mon milieu. J'habite le Nunavut après tout, un endroit qui a à peine été cartographié au complet une génération plus tôt. Même la péninsule de l'autre bord de la baie Frobisher où j'habite s'appelle Meta Incognita, ou le Grand Inconnu, et où jusqu'à il y a très récemment, les services étaient excessivement restreints, voire inexistants. Service postal, service éducatif, service médical, même le fucking service électoral fédéral. C'est le vrai grand fucking nord ici. Un territoire qui n'est pas territoire. Une région indéfinie, mais massivement réelle, où seule la toundra, les bizarres et la mer règnent. Là, je vous l'avoue que la modernité en a conquis de ce territoire, et surtout de ces âmes qui habitent dans quelques villages et qui rôdent les espaces entre. Or, quoique ma ville d'Iqaluit, la capitale de ce territoire arctique canadien dont la population compte au-delà 8000 citoyens, en offre beaucoup plus que les 26 hameaux, qui n'ont en comparaison que quelques centaines d'Inuits. Tout de même, la vie d'Iqaluit est très calme et simple, et le stimulus, on le trouve grâce à l'aventure dans les terres ou la mer, dans notre intimité quotidienne avec les très rudes climat, dans nos escapades romantiques et sociales, ou bien dans les passe-temps et les passions qu'on se donne. J'étais déjà quelqu'un d'un flegmatique tempérament avant de venir ici, mais le fut d'autant plus depuis mon déménagement il y a plus d'une décennie. Cependant, il y a une autre catégorie de fascination humaine, une des plus frappantes et des plus désolantes. La consommation excessive d'alcool, en plus de l'utilisation de solvants et une variété d'autres toxicomanies. Là, je suis loin d'en être un expert, et certainement je vais me prononcer et vous partager des choses qui vont choquer mes compères Nunavumiyot. Mais, il est clair, la consommation ici, partout dans notre région, est un problème d'urgence immédiate, une véritable crise territoriale. Les données le prouvent. Un article paru dans le Journal of Circumpolar Health en 2012 a présenté les résultats d'une étude menée sur 20 ans auprès de 23 communautés nunavutoises, dont le but était de comparer les communautés dites mouillées, c'est-à-dire où l'alcool est permis, mais avec des contrôles spécifiques, aux communautés sèche où l'alcool est complètement interdite. Et alors là, de remarquer toute incidence sur les problèmes individuels, familiaux ou communautaires. Finalement, on en a conclu qu'en dépit du fait des marchés noirs dans les communautés sèches, dans chacune des communautés mouillées, les taux de crimes violents, donc d'agressions sexuelles et d'agressions graves et même d'homicides, étaient vastement supérieurs, même le double d'ailleurs. Pour nuancer, on a également présenté un portrait fidèle de la situation des communautés sèches. Là, les taux de violence sont toujours plus élevés que les taux nationaux, notamment un taux d'agression grave 2 fois plus élevé que le taux national et un taux d'agression sexuelle au moins 7 fois plus élevé. Et dans chacun, l'alcool était un facteur. C'est vraiment crissement fucked up, je vous le dis. Et ceci est sans parler des conditions sociales, spirituelles et existentielles, personnelles et intergénérationnelles, historiques comme contemporaines, qui pourraient avoir suscité ou suscitent toujours le développement d'un tel phénomène. Et aussi, de sa plus tragique culmination, le suicide. Pour ce qui en est des stupéfiants, c'est encore plus sombre comme situation, car à franchement dire, il n'y a point de données probantes qui nous indiqueraient le vrai taux de leur consommation, de l'impact de ces effets, et non plus de leur incidence sur le long terme pour les résidents du territoire, leurs familles ou la société Nunavummiut. À ce niveau, on est carrément dans le noir. Mais l'alarme sonnée par la gendarmerie royale canadienne et les services de la santé face à la menace de la méthamphétamine en cristaux, la cocaïne et l'héroïne prouve que le danger est présent, réel et massivement important. Et ce qui est par extension tout aussi certain, c'est que les toxicomanies, y compris l'alcoolisme, sont dans leur ensemble une inéluctable et cruelle réalité de ce territoire inuit moderne qui sévisse sans répit et sans merci, s'étendant et atteignant chacune de ces communautés. C'est pourquoi, ce soir, à vos côtés, je veux examiner en toute poignante solennité et froide sobriété d'esprit la douloureuse énigme de la consommation, spécifiquement afin de comprendre ce besoin rageur de s'empoisonner le corps, comme la pensée, comme l'esprit, de substances de toutes les sortes, et de là saisir ce qu'une telle faim insensée mais puissamment ressentie peut bien nous enseigner sur la condition humaine. Et ceci sera fait bien certainement en s'introduisant dans le noir gouffre du malheur pour s'inspirer directement de la terrible musique et fatalement s'informer de certaines des plus néfastes révélations du black metal. Commençons par le binge drinking. Le Nova Scotia black metal ne vous dit fort probablement pas grand chose. Et à vrai dire, ce qu'il y a dans la province maritime comme culte black est fascinant, mais on en compte presque juste sur les griffes d'une seule main. Or, parmi ceux à noter, il vous faut de découvrir, si pas déjà reconnaître celui-ci, Snowfall. Fondé en 2001 en tant que projet des musiciens de comté néo-cossaise disparate, Sagacious Dramen et le malheureusement éteint Kane. Le triumvirat n'a produit qu'une poignée de parutions durant ses 9 années d'activité isolée, et elles sont difficiles en crise de mettre dans les repérer. Mais elles valent le coup, car le leur est un black cru mais expérimenté, méchant mais honnête, exigeant mais introspectif. Leur parcours a nourri cet esprit, voyez-vous. Par exemple, les notes de leur dernier album documentent, et je cite, « qu'à cette époque, nous consommions régulièrement de grandes quantités d'alcool, et un opiacé puissant ressemblant à l'héroïne, le Dilaudid. Notre état d'esprit était très mauvais pendant cet enregistrement, car nos vies étaient devenues de la merde d'une manière ou d'une autre, et nous n'étions plus que des drogués adorant la pourriture et n'ayant plus aucune raison de vivre. Tout s'écroulait autour de nous, et alors on s'est réunis pour créer un témoignage musical de ce dieu noir et vide qu'est le nihilisme. » Ceci est alors un black pour toute fin de sous-genre toxicomaniaque. Et de quoi de Snowfall s'impose comme offrande à vous révéler. Pour cela, je vous ai choisi un titre d'une cassette que j'ai d'eux, Black Terror Art. Leur premier album full-length est distribué sous l'actuellement défunte étiquette Northern Horde Records. Préparez-vous, ce que vous allez entendre sous peu est Alcohol Holocaust. Alors allons-y les cadavres. Le verre est levé et la bacchanale de black grisé commence promptement. Véridiquement, l'alcool consommé de façon excessive cause de terribles, terribles ravages, autant physiques que psychologiques. Ceci malgré l'acceptation sociale et l'habituation qu'on s'en est permis tout au long de l'histoire. Mais il n'y a pas que l'alcool. Oh que non! Vraiment, alors que cette substance-là était bien connue par plusieurs peuples, plus souvent, ce sont d'autres substances qui ont occupé une place d'importance dans leurs rites exaltés. Ici, on parlera au sens anthropologique d'entéogène, c'est-à-dire toute substance psychotrope utilisée dans un cadre cérémonial spécifique pour provoquer ou aider à provoquer un état modifié de la conscience. Ceci à des fins religieuses, spirituelles ou chamaniques. Les anciens prêtres égyptiens, par exemple, consommaient rituellement un lotus sacré nommé Nymphaea caerulea qui contient de l'apomorphine et d'autres alcaloïdes hallucinogènes, l'objet d'un culte rituel. Il y a aussi le célèbre soma mentionné dans les Védas, une boisson inconnue mais probablement confectionnée à partir de plantes hallucinogènes aussi. En Grèce antique, Hérodote rapporte que les Scythes respiraient les vapeurs de cannabis comme aide à la transe prophétique. Et en Afrique, les chamans camerounais et gabonais emploient toujours le tabernante iboga, un arbuste tropical, considéré comme une plante sacrée qui engendre un état de transe visionnaire et qu'on retrouve dans le rituel des boutis. Et comme dernier exemple, notons que dans le chamanisme des Sibériens, cousins des Inuits, les chamans là-bas emploient les propriétés du champignon magique Amanita muscaria ou Amanita tsumush et réutilisent même la substance encore active dans leur urine en buvant celle de leur prochain. Ce savoir et cette sagesse spirituelle ont été supprimés et oubliés par l'Occident au cours des millénaires subséquents, si pas carrément ignorés pour toujours. Quoi qu'on pourrait supposer que les grimoires documentent bel et bien l'utilisation occidentale d'un entéogène, même au-delà du début de l'ère moderne. Ceci est le fameux onguent des sorcières qui aurait permis à ces dernières de voler au sabbat sur un balai ou un autre objet, grâce à une recette qui inclut, entre autres, le jusquiame, la belladone, la stramoine, la mandragore et la ciguë, toutes collées à la peau grâce à la graisse de bébés non baptisés. C'est avec l'ère de la colonisation toutefois, surtout les mésaventures britanniques et françaises en Extrême-Orient, mais incluant la domination espagnole de l'Amérique du Sud, qui a introduit et répandu l'usage récréatif de nouvelles substances. Donc, au thé, au café, au tabac et au chocolat, sujettes à une exploitation commerciale agressive, se sont ajoutés l'opium, le coca, le cannabis et le hashish, entre autres. Certes, il y avait le souhait que certaines d'elles pourraient servir à usage médical, soit pour atténuer certains symptômes physionomiques de maladies, soit pour traiter des maladies mentales. Mais plusieurs Européens s'en sont servis tout bonnement rien que pour se divertir, et graduellement se développa une culture toxicomane intellectuelle. Alors pour ce deuxième chapitre, découvrons comment le black metal maintient cette tradition de transcendantalité toxicomane luciférienne avec deux sectes de débauche hallucinantes. Et à cela, faisons-le en hommage aux psychonautes des temps passés. Ainsi en premier, je vous servirai une composition de Crystallium de Lyon, France, fondée en 1995 mais dissolue en 2008, qui nous ont donné juste avant de disparaître dans l'obscurité leur toute dernière offrande, Daxo aux Révélations, parmi les titres desquels nous avons À l'absinthe à l'extrême. Et ensuite, et pour nous apporter à la pause, je vous passerai de quoi de Mysticum, projet pionnier norvégien du industrial black metal, qui a déjà très notablement affiché les tendances toxicomanes de ses membres avec la sortie Black Magic Mushrooms de 2003. Ils l'ont fait davantage en 2014 avec l'album Planet Satan, dont la pièce d'ouverture est cette même que nous allons bientôt entendre, LSD, qui propose dans ses paroles une joyeuse explication du célèbre acronyme. The triplet number flashes the sky. The gate of Inferno opens and wide. My burning eyes seize my demon. And then I become Lucifer in the skies with demons. Lucifer undisguised. Lucifer in the skies with demons. Oh, formidable! On y écoute sous peu. Mais en premier, voici Crystallium! Notre rituel de toxicomanie n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la toundra!